Shalom ouvracha, Boker Tov. Voilà, Boker Tov, les Koulam, Shalom ouvracha. Et voilà, ça y est, on a terminé les Zoomim, les différents Seder de Tu Bishvat de l'école. Et donc maintenant, on peut s'occuper de notre étude à nous. Donc voilà, Boker Tov à tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on peut commencer notre étude sur Tu Bishvat? Eh oui, aujourd'hui, donc on a dit étude un petit peu particulière. Ce ne sera pas l'étude qu'on a l'habitude de faire sur la névoie dans tous ses états, parce que Tu Bishvat oblige. Et donc, aujourd'hui, on va parler de cette fête incroyable de Tu Bishvat. Mais c'est l'air. Alors, allons-y, Léat. Ok, on va essayer de comprendre quelle est cette fête, quelle est l'origine de cette fête. Est-ce que c'est une fête Bichlal? Alors, allons-y, Léat. Tout d'abord, eh bien, il faut quand même qu'on se pose une question. Une question de base, sera que ça meurt à tout le monde. Et j'espère que vous n'avez pas fait une overdose de fruits. Chez nous, hier soir, on a déjà mangé 47 sortes de fruits différents. Et bon, Baruch Hashem, ce matin, d'autres sdarim, d'autres folies. Donc, autant dire que les 5 fruits et légumes par jour, eh bien, aujourd'hui, c'est bon. Ça, c'est fait. Mais quand même, quand on pense qu'on fait une fête autour des fruits et autour du fait de manger des fruits, c'est un comble dans le judaïsme. C'est un comble dans le judaïsme, surtout quand on sait que tous les problèmes du monde dans le judaïsme ont commencé parce qu'un homme a mangé un fruit. C'est quand même incroyable. Et donc nous, aujourd'hui, on va faire une fête qui tourne autour de manger des fruits. Alors, venez, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de comprendre de quoi on parle. Effectivement, tous les problèmes dans ce monde commencent avec Chet Adam Harishon. Chet Adam Harishon, il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas ce qu'il y paraît, c'est beaucoup plus profond que cela. D'abord, rappelons-nous une chose. Akadosh Baruch Hu va donner une mitzvah à Adam. Une mitzvah qui est la première mitzvah donnée à l'être humain. Il y avait une mitzvah préalable qui s'appelait Prour Vous, croissez et multipliez, mais c'est une mitzvah qui n'était pas propre à l'homme, puisque les animaux eux aussi ont été astreints de réaliser cette mitzvah-là. Donc, la première mitzvah donnée pour l'homme, eh bien, c'est bel et bien de Vayetzav Hashem Elohim el Adam lemor mikol etz agan achol tochel. Nous sommes au chapitre 2 du livre de Bereshit, au verset 16. Dieu dit à l'homme, tu dois manger de tous les arbres du jardin. C'est une mitzvah. Le problème, c'est que le verset qui suit ce commandement, c'est une autre mitzvah qui nous dit « Umeet sadat tov vara lo tochal mimenu, ki beyom acholcha mimenu mot tamut. » Nous avons ici une deuxième mitzvah qui est une mitzvah lo ta'ase qui contredit la première. Alors, en général, on dit « Mais non, ça contredit pas, c'est juste qu'il y en a une qui dit « Faut tout manger » et le verset d'après, il te dit « Sauf celui-là. » Le problème, c'est que le mot « sauf » eh bien, est tout à fait connu. Dans la Torah, on sait très bien faire une liste et dire, eh bien ça, ça ne fait pas partie de la liste. Il y a marqué, par exemple, dans la liste des ma'achalot à Asurot, de ce qu'on a le droit de manger et pas le droit de manger, eh bien on te dit, « Ach et achazir l'otochelou ». C'est-à-dire qu'on te dit, ça, il ne faut pas manger. C'est-à-dire qu'on t'a dit, qu'est-ce qu'on pouvait manger? Et non, celui-là, on ne mange pas. En d'autres termes, la Torah ici ne dit pas « sauf ». Elle donne deux versets. L'une est un... Enfin, un des versets, c'est une mitzvah assez, et l'autre verset, c'est une mitzvah lota assez. Et le problème, c'est que ces deux mitzvot se contredisent. Eh oui, car je ne peux pas manger de tous les arbres du jardin et en même temps manger, enfin ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est un des arbres du jardin. Donc, on a ici deux mitzvot qui se contredisent. Et c'est un vrai problème. Que faire? Que doit faire Adam Harishon à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe au niveau halakhique dans le judaïsme lorsque nous avons mitzvat aseh, velot aseh qui se rentrent dedans? Eh bien, nous avons un grand principe de la halakha qui nous dit aseh doche lot aseh, que la mitzvah positive l'emporte sur la mitzvah négative. J'en veux pour preuve, par exemple, eh bien, le fait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire sortir le sang. C'est ce qu'on appelle issur chabala. On n'a pas le droit de faire saigner quelqu'un ou soi-même Shabbat. D'un autre côté, s'il y a un bébé qui est né Shabbat, eh bien 8 jours plus tard Shabbat, on lui fera la Brit Mila à Shabbat. Alors que quand on va faire la Brit Mila, il y aura forcément du sang qui va couler. Nachon. Mais assez, la mitzvah assez de faire la Brit Mila, doré, bah la mitzvah lota assez de ne pas faire sortir le sang Shabbat. En d'autres termes, eh bien, il semblerait que dans la situation actuelle, Adam Harishon, qui était face à mitzvah assez de manger de tous les arbres du jardin et mitzvah lota assez de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ce qu'il devait faire, c'était de manger. Et bien, alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on lui en tient tellement rigueur? Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête avec Adam Harishon et qu'on dit « c'est pas bien, il a mangé » Yarabotai. Parce qu'il y a un trick. En fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que ces arbres, il y a quoi comme arbre dans le jardin d'Éden? Eh bien, quand on remonte au chapitre 2 du livre de Bereshit, au verset 9, c'est-à-dire 7 versets avant la mitzvah, les deux mitzvot qu'on a évoquées tout à l'heure, eh bien, on nous dit « Vayatzmach Hashem Elohim min ha'adama kol etz nechmad lemar'e vetov lemachal ve'etz ha'chaim betoch ha'gan ve'etz ha'dat tov vara. » Nous dit la Torah qu'il y a trois sortes d'arbres dans le jardin d'Éden. Il y a là des arbres qui s'appellent « bon à voir et bon à manger ». Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En vérité, eh bien, effectivement, Adam Harishon devait manger de Etz Hadaat Tov Vara parce qu'il devait manger de tous les arbres, mais il devait manger dans l'ordre. D'abord, se remplir d'arbres qui sont bons à voir et bons à manger, on vous dira en français, ça ne mange pas de pain, enfin, ça ne mange pas de fruits, quoi. Et ensuite, il devait manger d'abord l'arbre de la vie et seulement après, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh oui. C'est exactement de cela qu'on parle, les amis. La faute d'Adam Harishon n'est pas d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de l'avoir mangé avant de manger de l'arbre de la vie. Mais c'est quoi ça, arbre de vie, arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Ça représente quoi? On est dans le Gan Eden, donc ce n'est pas une dimension physique. Qu'est-ce que cela représente? Eh bien, l'arbre de la vie, c'est très simple. Nous dit le livre de Michelet, au chapitre 3, au verset 18, nous dit le livre de Michelet, Etz Chaim hi la machazikim ba vetomechea meushar. Maze Etz Chaim hi la machazikim ba vetomechea meushar. Eh bien, dans la tradition d'Israël, on comprend ce verset comme étant un verset qui parle de la Torah. La Torah, c'est Etz Chaim. C'est d'ailleurs à chaque fois qu'on est dans une synagogue et qu'on va ouvrir le Aron HaKodesh pour sortir le Sefer Torah, on va dire ce verset. Etz Chaim hi la machazikim ba vetomechea meushar. Rabotai. Quand on va rentrer le Sefer Torah, l'homme chané. En d'autres termes, la Torah, c'est Etz HaChaim. Ah, la Torah, c'est Etz HaChaim. Nakhon. Et ma c'est Etz HaDat? Etz HaDat, c'est HaDat. C'est quoi la date? Toutes les sciences, toutes les connaissances qu'on peut avoir. En d'autres termes, il faut manger de toutes les connaissances du monde. Mais une condition. Qu'on a précédé la vie d'abord. Vous savez, il y a marqué, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, eh bien, tu mourras. Si tu prends un vaccin contre la mort, à savoir l'arbre de la vie, alors, à Kol Beseder. En d'autres termes, eh bien, je paraphraserai ici mon maître le Rav Cherki qui disait, la faute d'Adam Harishon n'est pas d'avoir mangé. La faute d'Adam Harishon est d'avoir été à l'université avant de passer par la yeshiva. C'est-à-dire qu'il faut d'abord manger l'arbre de la vie, se remplir de Torah, et seulement après aller apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans ce monde. Vous savez, l'arbre, on connaît la faute d'Adam Harishon. Quelle aurait pu être l'autre faute, qui n'a pas été commise par Adam Harishon, mais qui malheureusement est commise par d'autres personnages, serait de dire, moi, je vais manger l'arbre de la vie, c'est-à-dire Torah, et après, je refuse de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des gens qui étudient la Torah, mais qui refusent d'étudier les sciences, qui refusent d'étudier l'anglais, la physique, les mathématiques. Non, ça n'existe pas, hein, des gens comme ça. Nous dit le Rav Kook, dans Rot HaTorah, que les gens qui veulent étudier que la Torah, mais pas les Chochmot, c'est sur eux que le Passouk dit « Am Naval Velo Chacham ». Mazé am naval velo chacham, un peuple mécréant et pas sage, de dire Omkelus, dekabilu oralta vela chakima. Ils ont reçu la Torah, mais ils n'ont pas été sages. Rafouk explique, ce sont les gens qui veulent étudier la Torah, mais qui ne veulent pas se remplir également après de sagesse. En d'autres termes, il faut étudier d'abord la Torah pour ensuite pouvoir savoir où ranger toutes les sciences, les sagesses que je vais apprendre après. Comme dira le philosophe français François Rabelais, qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est exactement de cela qu'on parle. En d'autres termes, il fallait manger, mais il fallait manger au bon moment. La faute d'Adam, c'est qu'il n'a pas mangé au bon moment. Mais comment est-ce que c'est arrivé, cette faute? Comment est-ce qu'on est arrivé à manger? Bien, comme vous le savez, il y a une autre personnage dans l'histoire. Il n'y a pas que Adam et le fruit. Il y a un autre personnage qui s'appelle Chava. Chava Imenu. Chava, notre maman. Eh oui, Chava Imenu. Et Chava Imenu, eh bien, elle va avoir une petite discussion avec un bonhomme, avec Monsieur Nachash. Et cette discussion, elle est intéressante parce que Chava va faire le premier décret rabbinique de l'histoire. Vous savez, la Torah nous donne des halakhot, nous donne des interdits, et les rabbins rajoutent des fois des interdits. Xéra des rabbanan. Eh bien, la première xéra des rabbanites, c'est celle de Chava Imenu. Puisque Chava va dire au serpent, Umipri haetz asher betoch hagan amar Elohim lo tuchlu mimeno, c'est effectivement ce que Dieu il a dit, velo tigu bo pen temutun. Ah, nous dit Chava qu'on n'a pas le droit non plus de toucher l'arbre. Dama. Alors c'est un guéder, c'est une xéra, de peur que tu arrives à le manger, alors tu ne faut pas le toucher. Bon, j'entends bien. Mais pourquoi dafka cette xéra là? Elle aurait pu dire, bon, bah alors moi, je fais une xéra qu'on n'a pas le droit de s'approcher à 10 mètres de l'arbre. Ça aurait pu marcher aussi. Pourquoi dafka de ne pas toucher? Eh bien, en vérité, il faut se poser la question. Quel est l'arbre en question? Quel était le fruit défendu? Évidemment, ce n'était pas une pomme. Bien sûr que ce n'était pas une pomme. Et pas, nos amis chrétiens ont pris l'habitude de dire que c'était la pomme d'Adam, mais ce n'est pas une pomme. C'est-à-dire, c'est pas parce que là-bas, en Europe, c'est ce qu'il y avait, ce qui poussait les pommes, que c'était une pomme. Non, ce n'était pas une pomme. Alors, c'était quoi? Eh bien, le Talmud va nous donner trois avis pour nous dire qu'est-ce que c'était pri et sadat. Premier avis, on nous dit c'est du blé. Deuxième avis, on nous dit c'est du raisin. Troisième avis, on nous dit c'est la figue. À chaque fois, on va ramener des versets pour corroborer les avis. Mais le quatrième avis, amené par le Midrash Rabba et par le Talmud également, est l'avis principal en vérité. Et cet avis principal nous dit qu'en fait, c'était quoi le Etz Hadaat? C'était l'arbre du Etrog. Etrog. Le Etrog, eh bien, nous dit le Talmud dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 15, Etrog kashia le yada, que la main est dure pour le Etrog. Rashi expliquera, mais qu'est-ce que ça veut dire Etrog kashia le yada? Kashia la Etz Etrog yadaim amashmeshot bo. C'est-à-dire que lorsqu'on touche le etrog, ça le détériore. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu les gens choisir un etrog dans les milieux très orthodoxes. On regarde des gens et ils tiennent leur etrog comme ça du bout des doigts. Ils regardent à la loupe. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Ben, ils regardent qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des bletlach. Bletlach, c'est des taches des petits points blancs, en fait, qui sont causés à cause d'une feuille qui se serait déposée sur le etrog. En d'autres termes, quand tu touches le etrog, ça le détériore. Chava Imenu, qui avait évidemment, qui avait lu la Gemara, qui savait que l'étrog, eh ben, c'était caché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que lorsque on n'a pas le droit de le toucher, si on le touche, ça le détériore. Eh bien, nous dit Chava Imenu, tant qu'on n'a pas le droit de le manger, assure de le toucher. Pour ne pas le détériorer. Chava, Talmid Chacham Gadol. Aval Mala Asot, on connaît l'histoire, finalement Adam Arishon va ken manger. Et donc il a fauté. Mais c'était quand cette histoire? Matai Zaya. C'était quand cette histoire que Moshe que Moshe, que Adam Arishon va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on nous dira, c'était Yom Shishi. C'était Yom Shishi, c'est-à-dire juste avant l'entrée de Shabbat. Il aurait dû attendre Shabbat. En d'autres termes, il aurait dû manger Etzachaim Beknissat à Shabbat et ensuite manger Etzadat comme il se devait. Mais si on pose la question, c'était quand ? Je pose la question au niveau aussi du calendrier. C'était quelle date ? Eh bien, d'après Rabbi Eliezer, où le monde a été créé en Tishrei, Adam Arishon a été créé le premier Tishrei, le monde en Kafei Be Elul, et Adam Arishon, le premier Tishrei. En d'autres termes, Adam Arishon a fauté le jour où il a été créé, il a donc fauté à Rosh Hashanah. Aha ! Sauf que quand on fait une faute, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire Tshuva. Et donc, juste après Rosh Hashanah, qu'est-ce qui commence ? Aseret Yeme Teshuva. Donc, on fait Tshuva. Il y a fait merde. Une fois qu'on est rempli de Tshuva pendant 10 jours, on arrive à Yom Kippourim. Yom Kippour. Hop. Oui. Alors, comme d'habitude, il y a des travaux en dessous de chez moi. Et il semble être des gens qui n'aiment pas la Torah, parce qu'à chaque fois que je fais un cours, ils décident que c'est le moment de faire du marteau-piqueur. Nounou. C'est bon ? Merci. Non, bah non, c'est pas bon. C'est bon ? Vous pouvez manger des fruits entre-temps. Voilà. Ok. On ne sait pas pour combien de temps il y a la calmie. En tout cas, donc après 10 jours de tshuva, eh bien, Adam Arishon arrive à Yom HaKippurim. Et Yom Kippour, eh bien, comme vous le savez tous, c'est quoi Yom Kippour ? C'est le jour où on a reçu la Torah. Eh oui, c'est le jour où on a reçu la Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le jour où on a reçu la Torah. Ah, c'est insupportable. Le jour où on a reçu la Torah. Or, vous allez me dire, mais non, le jour où on a reçu la Torah, c'était pas à ce moment-là. On a reçu la Torah à Shavuot. J'aimerais... C'est dur, hein. Aïe, 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 aïe. Midata Savlanot, qu'on doit travailler pendant ce confinement. Je te jure. Oy va voy rebono shel olam. Alors, je passe un appel à Dieu. Pendant ce confinement, tu as vu à quel point on était plein de Messirut Nefesh pour ta Torah et à quel point on était prêt à étudier en Zoom dans toutes les conditions, y compris les plus compliquées. Même quand il y a des gens qui font des travaux, tu peux peut-être penser que c'est le moment, yalla, de terminer le corona et qu'on puisse reprendre une vie normale, qu'on puisse réétudier la Torah ensemble, en live, en vrai, en chair et en os, sans travaux. C'est-à-dire, donc Ribono Shel Olam, c'est entre tes mains, à toi de jouer. Aïe, 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 aïe. Tov, Yovi. Bon, on va profiter des quelques minutes qui nous restent. Donc, Adam Arishon a fauté à Rosh Hashanah. Pendant la Aseret Yemei Tshuva, il a fait Tshuva. Et après arrive Yom Kippour. Et comme j'ai dit, Yom Kippour, c'est le jour où on reçoit la Torah. Non, ce n'est pas Shavuot. À Shavuot, Dieu s'est dévoilé à nous. Il nous a dit coucou dans la Aseret Adibrot, mais il ne nous a rien donné. Après, eh bien, pendant 40 jours, 40 nuits, Moshe monte sur la montagne. Il revient avec les premières tables de la loi. Mais il revient le 17 Tammuz, il voit le veau d'or, il casse l'étape de la loi. Il va prier pendant 40 jours, 40 nuits pour demander pardon pour le Ham Israël. Et à Rosh Chodesh Elul, il remonte 40 jours, 40 nuits jusqu'à Yom Kippour, où il redescend avec les deuxièmes tables et la Torah. En d'autres termes, Yom HaKippourim, c'est Yom Kabbalat HaTorah. En d'autres termes, eh bien après que Adam Arishon ait fait Tshuva, ben Aseret Yemei Tshuva, Yom Kippour, ou Mekabel et Etzachaim. Il reçoit l'arbre de la vie, il mange de l'arbre de la vie. Ah, tu manges de l'arbre de la vie à Yom Kippour. Nous, il y a fait merde. Donc maintenant que tu es prêt à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la première chose à faire est d'annuler la Xéra de Chava. Et effectivement, la première chose qu'on fait après Yom Kippour, c'est Ulkartem Lachem Bayom Arishon Peri et Sadar. C'est-à-dire qu'on doit prendre dans la main le Etrog à Sukkot. En d'autres termes, juste après avoir mangé de Etz HaChaim, eh bien, on peut annuler l'interdit de toucher Etz HaDaat et on prend le Etrog dans la main à Sukkot. Alors, on ne le mange pas tout de suite. Parce que c'est bien beau d'avoir reçu la Torah, on ne l'a pas encore véritablement intégrée. Donc, pour l'instant, on le prend, mais on ne le mange pas. Quand est-ce qu'on le mange? Alors, la Mishnah dans Maseret Souka nous dit que les enfants manger les Etrogim à Hoshana Rabba. Parce que les enfants, ils n'ont pas de faute. Donc les enfants, ils peuvent tout de suite intégrer et manger ce que tu veux. Avalanachnu, c'est quand? Eh bien, nous dit la Gemara dans Maseret Yevamot, à la page 15, Maase berabi Akiva sheliket etrog be'echad be'shvat ve'na'agbo shte isurim. Echad kedivre bet shamay ve'echad kedivre bet hilel. Shma mina asur, Rabbi Akiva, Gemira, estab kalei. ולא ידע האם את הלל באחד בשבט אמור או בתשעה, בשבט אמור. En fait, la Gemara nous dit, non, c'était pas le premier Shvat, c'était à tout Bishvat que Rabbi Akiva a pris un étrog et il l'a mangé. Pourquoi à tout Bishvat? Eh bien, à tout Bishvat, c'est deux mois après Rosh Hashanah. Tishri, Cheshvan, Kislev. On a tout Tishri, Cheshvan et Kislev, ce sera trois mois et demi même. Et on arrive à Shvat. C'est-à-dire que vient de s'écouler toute la saison presque des pluies. Pendant la saison des pluies, Rabotai, on peut pas aller travailler dans les champs. Dans une société qui est complètement agricole, on peut pas aller travailler dans les champs. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant tous ces mois d'hiver? Ben, on va étudier la Torah. On se remplit de Etz Chaim pour que finalement, à Tu Bishvat, on soit prêt à manger Etz HaDaat comme il se doit. En d'autres termes, Rabotai, Tu Bishvat, on a l'habitude, le minag, de manger des etrogim. J'ai mangé de la confiture de Etrog, tout à fait avec les Etrogim de Sukkot. À Tu Bishvat, on est metaken chet Adam Arishon. On corrige la faute de Adam Arishon. On mange tel qu'on aurait dû manger. Et c'est ça la grandeur de Tu Bishvat. Maintenant, vous comprenez que tout ceci, ce qu'on vient d'expliquer, n'est pas du domaine de la halakha. C'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation de fêter Tu Bishvat. Pour l'instant, ce n'est qu'un minag, mais c'est peut-être ce qui lui donne une force encore plus importante. Vous savez, dans la Torah, nous avons des fêtes qui sont des oraita, de la Torah, des fêtes qui sont des rabbanan, des rabbins, et nous avons des minagim. Fête des oraita, c'est Pessah. Pessah, c'est des oraita. Fête des rabbanan, c'est Pourim. C'est Pourim. Fête minag, c'est Tu Bishvat. Vous remarquerez d'ailleurs que il s'agit de tout. Tu Bishvat, 15 Shvat, Tu Be'Adar, 15 Adar, et Tu Be'Nissan, 15 Nissan. Donc on a Tu Bishvat, Purim et Pessah. Mais attendez, qu'est-ce que c'est en train de nous apprendre cette histoire? Bien, en fait, on doit se poser une question très simple. Est-ce que les choses sont liées? Bien sûr. Nous dit le Shulchan Aruch Harav, le Shulchan Aruch du Admor Hazaken, qu'en vérité, chaque fête, l'essence de la fête, commence 30 jours avant. Donc, si tu veux comprendre l'essence de Pessah, c'est Pourim. Et si tu veux comprendre l'essence de Pourim, c'est Tu Bishvat. Nounou, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Eh bien, ça veut dire une chose très simple. Nous dit la Torah par rapport à Pessah, Hayom atem yotzim bechodesh ha'aviv. On a vu ça ce Shabbat, dans la paracha de Bo. Donc, Pessah, c'est le printemps. C'est Barour. Pessah, c'est le printemps. J'ai pas besoin de la vérité de la Torah pour me le dire. C'est le printemps, je le vois. D'ailleurs, on va faire la bracha de Birkat Ha'Ilanot, la bracha où on voit les arbres en fleurs, eh bien, à partir de Nissan. C'est le printemps. C'est le moment où, Bémet, il y a la résurrection de la nature. Tov Beseider. Ayom etem yotzim bechodesh ha'aviv à Nissan, c'est sûr. Mais en vérité, on doit se poser la question, quand commence le printemps? Est-ce que ça commence à Nissan? Ceux qui ont déjà un peu plus de flair, eh bien, se rendent compte que, en fait, déjà à Pourim, on peut sentir le début du printemps. Et ceux qui vraiment ont une sensibilité extrêmement profonde, eh bien, ils vont te dire, non, à Tu Bishvat, c'est le début du printemps. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tout Bishvat, le début du printemps ? Mais tout Bishvat, c'est la plein milieu de la saison des pluies. Il pleut. D'ailleurs, aujourd'hui, à Jérusalem, il pleut. Ah, le printemps. Ah, nous dit effectivement la Mishnah dans Maaseret Rosh Hashanah que Behemet, tout Bishvat, c'est Rosh Hashanah la Ilanot. Rosh Hashanah la Ilan. Tov, yafemod, Azma. Rosh Hashanah la Ilan. Pourquoi ? Nous dit le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem nous explique pourquoi est-ce que Rosh Hashanah la Ilanot c'est à tout Bishvat ? Eh bien, tout simplement parce qu'à tout Bishvat, il y a quelque chose qui commence. La sève des arbres remonte dans les arbres, pas grâce aux pluies de l'année dernière, mais aux pluies de cette année. En d'autres termes, le renouveau de l'arbre commence, mais c'est pas comme à Nissan où tu le vois parce que tu vois les fleurs de l'arbre arriver. C'est quelque chose qui est caché du regard, qui commence, mais qui n'est pas visible à l'œil nu. Il faut avoir des lunettes très spéciales pour le voir. En d'autres termes, le printemps commence à Nissan. Ça, c'est une évidence. Celui qui dirait le printemps ne commence pas avant Tammuz, le printemps commence à Nissan, c'est une évidence. Certains le voient déjà à Pourim. Et d'autres qui ressentent les choses qui sont intérieures qu'on ne voit pas, eh bien, le voient déjà à Tou Bishvat. Ce qui est vrai pour l'année est vrai également pour la journée. Vous savez, dans le judaïsme, la journée, 24 heures, commence le soir et ensuite le matin. Mais on doit se poser la question, d'après la halakha, ça commence quand le matin ? Eh bien, c'est très simple. Le matin, c'est Hanetzachama. Hanetzachama, c'est le lever du soleil. Le lever du soleil, c'est le matin. Ah, d'accord, ça veut dire quoi ? Bah, c'est quand le soleil se lève. C'est pas compliqué, tu vois le soleil. Ce qu'on appelle l'aube. C'est pas chaud, tu vois le soleil se lever, c'est le matin. Nachon. Barour, et c'est l'heure de la tfilat chacharit, ce que tu veux. Hanetzachama. Mais, en vérité, on pourrait dire que le jour commence un peu avant. Quand on ne voit pas encore le soleil, mais qu'on voit son influence, puisque la lumière revient. C'est ce qu'on appelle l'aurore. Ayelet ha-shachar. C'est-à-dire qu'on ne voit pas encore le soleil, mais on sait qu'il est là, parce que la lumière commence à apparaître. Ayelet ha-shachar. C'est avant Hanetzachama. Et donc, on peut faire Birkot ha-shachar à partir de Hanetzachama, de Ayelet ha-shachar. Mais les Mekoubalim, eux, ont l'habitude de se lever à Chatzot Laila. Chatzot Laila, c'est le milieu de la nuit. Et ils disent, c'est maintenant que commence la journée. D'après les Mekoubalim, les Birkot ha-shachar commencent à se dire à Chatzot Laila. Mais comment ça ? C'est le milieu de la nuit ! Alors toi, tu vois ça comme étant le milieu de la nuit. Les Mekoubalim, eux, ils disent, c'est le début de la fin de la nuit. Et c'est vrai. Sauf que pour ça, il faut avoir un ressenti tout particulier. Je ne peux pas mettre mon réveil et me réveiller au milieu de la nuit et me dire, voilà, c'est le début de la fin de la nuit. Si je ne le ressens pas, je ne le ressens pas. C'est pour ça que Tou Bishvat, eh bien, c'est une fête des Mekoubalim. Parce que de la même façon qu'ils se lèvent en plein milieu de la nuit, parce qu'ils ressentent que c'est le début de quelque chose, eh bien, ils ont ressenti que Tou Bishvat, c'est le début du printemps. Oui, le printemps officiel, c'est à Pessah. Oui, c'est vrai que Esther est appelé dans le Talmud, dans le traité de Yoma, que Esther est appelée Ayelet ha-Shachar. C'est Alot ha-Shachar. C'est l'aube. C'est l'aurore par rapport à l'aube. Ça commence, mais les Mekoubalim ont vu dans Tou Bishvat le début de quelque chose. C'est intérieur. Tu ne le vois pas. Mais il est là. Il est là. Rabotai, ce qui est vrai pour l'année, qui est vrai pour la journée est vrai également pour l'histoire. Ainsi, eh bien, l'histoire, on doit se poser la question, c'est quand la Géoula ? Le matin de l'histoire, si tu veux. Eh bien, là encore, les choses sont très simples. Au niveau de la halakha, c'est pas chout meod. Matai zé a Géoula. Eh bien, au niveau de la halakha, en ben haolam hazé leimot hamashiach el ha-shi'abud malchuyot bilvad. C'est-à-dire la seule différence entre ce monde et la Géoula, ce monde ça s'appelle l'exil, et la Géoula, c'est l'indépendance nationale. En d'autres termes, Alpia Alakha, la Géoula commence à l'époque de la sortie d'Égypte, quand le pharaon nous libère, à l'époque de Hanouka, Hanouka, et dans notre génération, à Yom HaAtzmaout. le 14 mai 1948, le 5 Iyar Hatashar, eh bien, c'est le début de la Géoula. Zéou, l'indépendance nationale, on a terminé Shiaboud Malchouyot. Au niveau de la Halakha, c'est très clair. Comme on a dit, il y a malheureusement des gens qui n'ont pas les yeux en face des trous et qui disent que bientôt, Bezrat Hashem, il y aura la Géoula. C'est comme quelqu'un qui se lève à 11h du matin et qui dit Bezrat Hashem, le soleil va se lever. C'est Chaval. Il n'a pas les yeux en face des trous. Mais il y a des gens qui, comme ceux qui arrivent à Pourim à voir le début du printemps, qui arrivent à Ayot, à Lota Shachar, à commencer à voir le début de la journée, eh bien, ont vu le début de la Géoula avant qu'elle soit retentissante. Par exemple, le Chafetz Chaim, qui va dire, en entendant la déclaration Balfour, « Dos is dos, zeouze, ça y est, ça commence !» Ou alors le Rebbe Meir Simcha Cohen de Dvinsk, pareil, entendant la déclaration Balfour, se dit « Ça y est, c'est le moment !» Natif de Vologine, Otto Davar. En d'autres termes, il y a des gens qui voient la Géoula, elle est déjà en train d'éclairer, mais elle n'est pas encore officiellement là. Et puis il y a des gens qui voient la Géoula encore avant. Mais t'as vraiment aucun signe avant-coureur dehors, a priori. T'es en plein milieu de l'Empire Ottoman, t'es en plein milieu de la nuit. Mais le Baal Shem Tov envoie ses élèves en 1777, mais le Gaon de Vilna envoie ses élèves en 1808. Et puis on voit qu'il y a des gens qui disent non, Zematril. Les élèves du Gaon de Vilna qui arriveront ici écriront un livre qui s'appelle Kol HaTor. Kol HaTor vient de ce verset. En d'autres termes, Zéou, ça commence. Mais comment ça, ça commence? On est en plein milieu de l'Empire Ottoman. La persécution, elle est toujours là. De quoi tu me parles? Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient la première Alia, 1882, et encore avant, se disent Zématril. Zématril. Les premiers qui ont dit ça, c'était les Mekoubalim de Tzfat au XVIe siècle. Le Harizal, Rabbi Yosef Karo, qui disent, ça commence. Nachon, tu ne le vois pas. Mais moi, je te le dis. Ça commence. Zéou. Zématril. Top. Il a fait mode. Vous le savez. Quelque part, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Parce que si on admet ce que nous dit Tehilim, que Elef Shanim Be'enecha Keyom Etmol Ki Yahavor, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que chaque jour pour toi est comme 1000 ans pour nous. Vous savez, notre monde, il est créé, le monde de l'influence de l'homme, il est pour 6000 ans. Chacun de ces millénaires des 6000 ans représente donc une des journées d'Akadosh Baruch Hu. Hashela Matai Matri la Elef Hashishi, c'est-à-dire que lorsque commence l'année 5000 du calendrier juif, eh bien ça veut dire que c'est le début du dernier jour, c'est-à-dire le début du sixième jour de la création qui doit amener à la Géoula. Bon, d'accord, mais attendez, Rabotai, comme on a dit, d'après le judaïsme, le jour, c'est d'abord la nuit et ensuite le matin. C'est-à-dire que si chaque millénaire correspond à une des journées de la création, eh bien, chaque millénaire, pas de problème. Ça veut dire que 500 ans, c'est la nuit et 500 ans, c'est le jour. Ein ba'aya. Ein ba'aya. Quand est-ce que ça commence alors le jour du Elef Hashishi, le jour du sixième jour? Eh bien, nous sommes en 5781. On va faire un peu de mathématiques. Donc on est en 5781, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 219 ans pour atteindre l'an 6000. En d'autres termes, quoi qu'il arrive, Mashiach, pas après l'année, alors 2000, on a dit, on est en 2021, il reste 219 ans, donc pas avant, pas après sera l'année 2240. Voilà, pas après. C'est-à-dire, yala. Pas après 2240. Bon, 2240, c'est donc la fin du Elef Hashishi. On a dit 500 ans auparavant, eh bien, c'est le début du matin. C'est le début du matin, à Kol Tov. Donc, ça veut dire que on est en 5781, ça veut dire que 281 ans en arrière, c'était le début du matin. Alors, venez, maintenant, on se remet deux secondes en mode année grégorienne. On est en 2021. Enlevez à 2021 bah, 281 ans. Ça nous amène, plus minus, aux années. Eh oui, allez, on y va. Peu de calcul. Ça nous amène aux années à peu près 1740. 1760, la deuxième moitié du 18e siècle. Tov, il y a fait merde. 1740, 1750, 1760. Yalla. Seulement ça, c'est le début du matin. C'était quand Chatzot Laila. Chatzot Laila, c'était donc 200 ans auparavant. 200 ans auparavant, 250 ans auparavant, c'était donc le tout début du 16e siècle. Au tout début du 16e siècle, eh bien, c'est exactement la période de Rabbi Yosef Karo, du Harizal, qui commence à dire Zehu Zematril. C'est le tikkun chatzot de l'histoire. Et ils disent, ça commence. C'est le début de la fin de la nuit. Tu ne le vois pas, et pourtant, c'est là. Tu Bishvat, c'est donc la fête de la lumière de la Géoula qui commence, même si tu ne la vois pas de manière officielle. Ceux qui ont les yeux pour voir, eh bien, ils la voient. Parmi ceux qui ont eu les yeux pour voir, eh bien, il y avait un homme qui s'appelait Yirmiyahu Hanavi. Yirmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie, eh bien, il dit la chose suivante, Rabotai. Dieu lui parle et lui dit, « Mataroé, qu'est-ce que tu vois ?» Et Yirmiyahu, il dit, « Makel shaked aniroé. » Il dit, « Je vois un bâton d'amandier devant moi. » Et Dieu lui répond, « Etav talirot. » Bien joué, tu as bien vu. Tu as bien vu. Si tu lui montres un bâton d'amandier, ben pourquoi il ne le verrait pas? Non, il n'y avait pas les fleurs d'amandier, c'est trop facile. Il a montré un bâton et Yirmiyahu a compris qu'il s'agissait d'un bâton d'amandier. Lama. Lama et Tav Talirot. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la Shkidia? Eh bien, comme tous les enfants du Gan le savent, Shkidia porachat, Veshemesh la zorachat. Shkidia, elle est en fleurs. Alors que tous les autres arbres vont être en fleurs qu'en Nissan, la Shkidia, qui est la névoie de Yirmiyahu qui nous dit Etav Talirot, qui choquait Dani Aldevari la Asoto, parce que je vais m'empresser de faire la Géoula. Hashkedia, qui pousse avant tout le monde, eh bien, c'est le symbole de cette Géoula, qui a déjà ses prémices avant qu'on puisse les voir officiellement, à condition d'avoir les yeux en face des trous pour le voir. C'est un petit peu ça, Tu Bishvat. Et, vous savez, à Tu Bishvat, on a un minag. On a un minag de... très particulier, un minag qui est terrible au niveau botanique, mais qui est extrêmement puissant au niveau de ce que ça représente. Le Rav Dr Zev Yahavetz va lancer les minagim en 1890 de planter des arbres à Tu Bishvat. Seulement, vous le savez, planter un arbre à Tu Bishvat, c'est peut-être le pire moment, agricolement parlant, pour planter un arbre. Il fait trop froid, il y a trop de pluie, les racines ne vont pas prendre. Ou becholzot. Il y a derrière tout ça quelque chose de très très profond. Vous savez, planter un arbre, d'ailleurs, c'est une des premières mitzvot qu'on a reçues quand on rentre en Israël. Unta'atem etz ma'achal. C'est la première chose. Quand on rentre en Israël, va kitavo el haaretz unta'atem. Mais lorsqu'on s'occupe de planter, eh bien, en fait, on s'occupe de faire exactement la même chose que ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait dans le Gan Eden. Il est marqué que Dieu a planté un jardin, Be'eden. Nata Gan Be'eden. En d'autres termes, on essaie de faire comme Akadosh Baruch Hu. Et vous savez, à propos d'arbres, eh bien, on va nous dire qu'il y a Adam ou Etzasadeh, car l'homme est un peu l'arbre du champ. À propos de l'homme et des arbres, on dit la même chose. Vous savez, nous dit la Gemara que 40 jours avant la naissance, eh bien, on dit, bat, il y a une voix qui sort du ciel qui dit « Bat ploni li ploni ». Celle-là, c'est pour celui-là. Ce qui est vrai pour l'individu est vrai pour l'humanité. L'homme qui est Tzassadé, c'est également Am Israël. Dit le prophète Yeheskel, Atem kruim Adam, ve einu mota olam kruim Adam. Vous êtes Adam. 40 jours avant la naissance de Adam, eh bien, on va dire Bat ploni li ploni. Ah ah, très bien. C'est quand la naissance de Adam? Eh bien, on a dit tout à l'heure, d'après Rabbi Eliezer, c'est le premier Tishrei. La création du monde, c'est le 25 Elul. Mais ça, c'est d'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Yehoshua, la création du monde, c'est en Nissan. C'est-à-dire Adam, c'est en Nissan, le premier Nissan. Et la création du monde, le 25 Adar. Rabotai, ça veut dire que 40 jours avant la création du monde, à Tu Bishvat, il y a une voix qui sort et qui dit Bat Ploni, Eretz Israël, elle est pour Ploni, Am Israël. Et donc, on a l'habitude de faire cette action incroyablement intime de planter un arbre en Eretz Israël à Tou Bishvat pour montrer notre lien indéfectible entre Am Israël et Eretz Israël. Tou Bishvat, c'est donc la fête de la Géoula. Mais elle n'est pas encore totalement visible. C'est pour ça que ce n'est qu'un minhag de faire Tou Bishvat. Yom Ha'atzmaout, c'est obligatoire, c'est une halakha. Mais Tou Bishvat n'est qu'un minhag. Parce que pour être conscient de ce qui est en train de se passer, alors il faut regarder. Et il faut avoir les bonnes lunettes. Il y en avait un qui avait les bonnes lunettes. Il s'appelait le Rav Tzvi Yehuda Kouk. Et le Rav Tzvi Yehuda Kouk, lorsqu'on lui parle de Tou Bishvat, pour lui, ça fait référence à une chose. Vous savez comment il va appeler Tou Bishvat ? Eh bien, nous dit le Rav Tzvi Yehuda Kouk que pour lui, Tou Bishvat, c'est Reshit Giluya Shel Romemut Yemin Elion Le Geulat Amo Venachalato Veishuat Meshicho. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Les amis, 1949. Tou Bishvat, 1949. Qu'est-ce qui s'est passé à Tou Bishvat 1949 ? La Knesset, le Parlement israélien, est passé de son lieu temporaire de Tel Aviv et est arrivé à Jérusalem. Pour le Rav Tzvi Yehuda, que le gouvernement israélien arrive à Jérusalem, c'est le début, Réchit, du dévoilement, Gilouya, Shel Romemut, Yemin Elion, de la grandeur idéale du Créateur, les Geulat Amo pour la libération de son peuple, Venachalato, Veishuat Meshicho. Et tout ça est les prémices de ce qui va amener Melech HaMashiach. Vous comprenez donc maintenant pourquoi, à Tou Bishvat, eh bien, le minhag est de manger des fruits. Car les fruits sont l'annonciateur de la Géoula. Nous dit la Gemara dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, à propos du verset de Yechezkel, chapitre 36, lorsque Yechezkel nous dit « Vatem are Israël !» Lorsque vous, les montagnes de Judée, vous donnerez vos fruits, alors, ce sera le signe que Kirvon l'avo, que Ami Israël, que mon peuple d'Israël va bientôt revenir. Nous dit le Talmud, dans la bouche de Rabbi Abba, qu'il n'y a pas de plus grand signe de la Géoula. Lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits, c'est le signe officiel de la Géoula. Nous sommes aujourd'hui les chanceux qui pouvons tout simplement réaliser l'espoir bimillénaire. La terre d'Israël redonne ses fruits. Nous voyons cela aujourd'hui de manière incroyable et nous pouvons donc être ceux qui réalisent 2000 ans de prière pour revenir à cette dimension où nous pouvons enfin retrouver notre Benzoug, Batzoug, Eretz Israël pour compléter le dévoilement divin, corriger la faute d'Adam Arishon et amener le monde à un niveau beaucoup plus extraordinaire. C'est tout cela qu'on fête à Tou Bishvat. Alors, Chag Sameach, et comme dirait un ancien président de la République française, mangez des pommes et mangez d'autres choses aussi. Faites-vous plaisir, mangez les sept fruits d'Eretz Israël et si vous avez l'occasion, mangez aussi un etrog en confiture, en confit, en ce que vous voulez, pour faire de cette fête un moment incroyable où on prend la responsabilité de parfaire la création du monde. C'est à nous de faire, à nous de parfaire la création d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom, et chag sameach lekulam.